Jeux vidéo, actualité de vos jeux préférés.
Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 22 mars 2018, vous écoutez Eva Sound Studio, bienvenue dans vos jeux vidéo, votre émission d'actu des jeux vidéo. Je suis Jake et je suis avec Akipon.
Salut.
Au sommaire cette semaine, une flopée de jeux indés annoncés sur la Switch, avec le Indie Showcase qui a eu lieu cette semaine, le patch 8.6 de League of Legends et Irelia qui a été refondu.
Elle a perdu du foie ?
Ça doit être ça je pense, elle avait trop bu donc... Un nouveau héros arrive dans le Nexus de Heroes of the Storm et une autre vient d'arriver justement sur les serveurs publics d'Overwatch. Mais aussi on vous apporte des news de Hearthstone. Alors ça a l'air d'être un programme assez léger mais vous allez voir c'est assez lourd. Avant de commencer de parler des indés de Nintendo, une petite rumeur qui se confirme de plus en plus avec l'arrivée de Diablo 3 sur la Switch, il me semble qu'on vous en a déjà parlé, mais sauf que cette rumeur se fait de plus en plus forte avec notamment un site marchand britannique qui propose déjà le jeu en précommande pour 48 livres sterling sans donner de date de sortie. Affaire à suivre. Ark Survival Evolved, quant à lui, est confirmé sur la Switch. Et pour l'automne 2018, ce sera le même modèle que sur PC et autres plateformes. A noter également qu'une version free-to-play mobile serait en cours de travail. Alors là, je ne sais pas trop comment ils vont faire. Je ne sais pas si c'est viable, mais c'est la mode hein, en ce moment de sortir des gros jeux sur mobile. Fortnite, PUBG, Ark maintenant, je pense pas que nos mobiles soient faits pour ça, mais bon, bref. Allez, on attaque le petit focus du Indies qui a eu lieu ce mardi 20 mars. Pas beaucoup de grosses annonces, surtout du portage et quelques exclusivités temporaires, mais dites-vous bien qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 430 jeux indépendants sur le eShop de la Switch, ce qui est énorme. La Switch est la console la plus vendue de tous les temps aux États-Unis en un an. Et c'est vraiment, elle fait un succès fou cette console. Bref, concernant les annonces, on commence avec Mark of the Ninja Remastered, prévu à l'automne 2018. C'est un jeu qui est initialement sorti en 2012 sur Steam, Xbox 360, et c'est développé par Clay Entertainment. Clay Entertainment, ce sont les créateurs de Don't Starve, pour ceux qui ne savent pas. L'histoire de Mark of the Ninja se situe durant l'époque contemporaine et on y incarne un ninja, sans blague, qui utilise des armes traditionnelles. Le jeu arrive donc remasterisé avec des graphismes un petit peu au goût du jour et la musique bah, de même pour cet automne 2018 sur la Switch. Phantasy Strike, c'est un jeu de combat qui se veut facile d'accès et permet aux joueurs de prendre le contrôle de personnages sans trop de difficultés, c'est vraiment un jeu casu. Hein. C'est initialement sorti en septembre 2017 sur Steam avec d'excellentes critiques, c'est impressionnant, et il arrive cet été 2018 sur la Switch, et les graphismes sont plutôt très sympas. Just Shapes and Beats, c'est un jeu développé par seulement 3 personnes issues de Berserk Studio. C'est un jeu d'action de plateforme de musique, une sorte de dérivé de Shoot 'em Up, dans un univers chiptune décalé mais qui va demander beaucoup de concentration, de rythme et surtout de rapidité. C'est un jeu un petit peu pour les fous. Hein. Il pourra être jouable jusqu'à 4 joueurs en coop et il arrive cet été 2018 sur la Switch et c'est une exclue temporaire. Par la suite, il arrivera sur Steam notamment. La grosse annonce de ce Indies, c'est assez surprenant, c'est Garage. C'est un jeu qui est porté par Tiny Builds Games, qui, malgré son look rétro, sera un jeu PEGI 18, à ne pas mettre entre toutes les mains donc. C'est un jeu de tir en vue de dessus. On y incarnera Butch, un ancien trafiquant de drogue, qui découvre dans un parking un monde rempli de mutants et de zombies. Pour l'anecdote, on pourra jouer au foot avec la tête des ennemis. C'est un jeu qui promet beaucoup de sang. Hein. C'est une exclue temporaire pour la Switch et ça arrive au printemps 2018, dans quelques semaines. On change complètement de style. Pool Panic, c'est un jeu de simulation de billard la moins réaliste du monde. C'est la propre description du jeu, c'est comme ça qu'il est indiqué. On y incarnera une boule de billard qui souhaite découvrir le monde. Il faudra la faire progresser à travers plus de 100 niveaux et achever des monstres en les frappant avec la queue du billard. Il sera possible d'y jouer jusqu'à 4 joueurs selon les différents modes. Arrivée prévue dans le courant de l'année 2018, et là encore c'est une exclue temporaire pour la Switch. Une autre exclue temporaire, il s'agit de Bomb Chicken, qui a été greenlighté sur Steam en 2017. C'est un jeu de plateforme typé rétro dans lequel on incarne une poule qui pond des bombes. Il a l'air très fun, et c'est mon coup de cœur de ce Indie Showcase. Ça arrive dans le courant de l'été 2018, en exclue donc sur la Switch, mais mais par la suite il arrivera sur Steam. Lumines Remastered, quant à lui, c'est un jeu de puzzle musical. Initialement sorti sur PSP en 2004, il arrive sur la Switch au printemps 2018, mais également sur Xbox One, PC et PS4. Dans ce jeu, on manipule des blocs colorés de façon à créer des combos, le tout en rythme et remasterisé. On passe à un jeu de réflexion qui a fait son petit succès en 2016 lorsqu'il est sorti sur mobile, Steam, etc. Il s'agit de Reigns et ses DLC King and Queens, développés par Devolver Digital. On y incarne un roi, représenté par une carte, et on doit conserver le pouvoir le plus longtemps possible sans se faire détrôner, tout en gardant le contrôle sur les quatre forces du royaume, à savoir l'église, le peuple, l'armée et les finances. Il arrive sur la Switch au printemps 2018.
Un très bon jeu, Reigns.
Très bon jeu, ça mélange un peu de stratégie et de réflexion, je trouve.
Ouais, c'est tout con, le principe est vraiment tout con, et je le trouve vraiment très très bien.
Et tu fais bien de prendre la parole parce que le prochain jeu, je pense qu'il va te plaire, qui est un autre de mes coups de cœur, c'est Lightfall. C'est un jeu de plateforme développé par Bishop Games. Il faut ici explorer le monde oublié de Nunbra pour découvrir votre passé et sauver la Terre d'une menace imminente. Dans ce monde, la nuit y est éternelle, les décors plutôt sombres, mais avec des teintes plutôt agréables. Le jeu a déjà de nombreuses récompenses, c'est impressionnant, il est déjà récompensé, et il arrive dans les prochaines semaines sur la Switch et sur Steam notamment.
Ouais, donc concernant Lightfall, ben, ça fait beaucoup penser à Celeste qui est sorti dernièrement, avec encore de la plateforme en tryhard total. Ouais, c'est un monde assez étrange qu'on nous propose, mais la mécanique a l'air vraiment sympathique, le jeu a l'air très rythmé, joli aussi, hein, même si on dirait pas aux premiers abords. J'aime beaucoup ce qu'on nous propose là en ce moment dans les indies. Enfin, il y en a deux ou trois qui sortent du lot, le reste ça reste un peu bateau. Mais ouais, il y a quand même de bonnes surprises, donc ouais, j'espère que ça va continuer dans ce bon train.
On continue toujours avec les autres annonces. On va parler maintenant d'un jeu qui sort dans ses trop. Zou, hein. Il s'agit de West of Lothing. Il est sorti en 2017 sur Steam. C'est un RPG en 2D dans un monde ouvert, au graphisme très simpliste en noir et blanc. Mais quand je dis très simpliste, les personnages, ce sont des bons hommes en bâton. Il ne faut pas les chercher plus loin. Il faut ici résoudre de nombreuses énigmes, et le jeu aurait une assez longue durée de vie, de par les nombreux lieux à visiter et les personnages avec qui interagir. Le jeu arrive dans le courant de l'été 2018. Ce jeu, je ne sais pas trop quoi en penser, sincèrement. Dans un autre registre, Pod, c'est un jeu de puzzle en coopération, graphisme plutôt mignon et agréable. L'histoire, c'est un petit rocher qui aide une étoile tombée du ciel à retrouver son chemin. Chaque personnage a des capacités propres, il faudra explorer, résoudre des énigmes, des puzzles et de nombreux mystères. L'atmosphère du jeu y est relaxante, même poétique, arrivée sur la Switch, prévue au printemps 2018. Un autre jeu qui m'attire beaucoup, c'est The Messenger, qui semble être dans le même esprit que Ninja Gaiden à l'époque. The Messenger, c'est un jeu d'action de plateforme typé 8 bits, mais qui peut switch vers un mode 16 bits à la Metroidvania. Selon le mode, vous aurez de nouvelles capacités et niveaux cachés, ainsi que des compléments d'histoire. Le jeu est développé par le studio Sabotage, mais soutenu par Devolver Digital. Concernant l'histoire, alors qu'une armée de démons assiège son village, un jeune ninja va s'aventurer dans le monde maudit afin de livrer un parchemin indispensable à la survie de son clan. Arrivée prévue sur la Switch dans le courant de l'été 2018. Parlons maintenant d'un petit jeu de stratégie en temps réel, il s'agit de Bad North, une sorte de tower defense. On y dirige des petites armées mobiles sur des terrains insulaires très petits qui veulent juste défendre leur territoire d'envahisseurs vikings. Le jeu est également de type roguelike, car les îles sont générées de manière procédurale. Il vous faudra faire preuve d'attention et de réflexion pour ne pas tomber dans les mains des ennemis. Le jeu arrivera cet été 2018 sur la Switch. Enfin, dernière annonce de ce Indies, on parle de The Banner Saga 3, un jeu inédit qui arrivera simultanément sur la Switch, PS4, Xbox One et PC. C'est un tactical RPG inspiré de la mythologie viking, à la narration importante et au graphisme très détaillé. Les choix stratégiques du joueur influent directement sur son voyage personnel. Le jeu arrivera dans le courant de l'été 2018. Les épisodes 1 et 2 arriveront également sur l'eShop de la Switch prochainement.
En dehors du Indies, la Team Cherry était attendue dans les annonces. Ce sont les développeurs de Hollow Knight. Et ils ont annoncé des nouvelles à venir dans les prochains jours concernant l'arrivée du jeu sur la Switch. On se tient informé et on vous en parlera. Enfin, les développeurs de Hyperlight Drifter, jeu d'action RPG aux inspirations des années 80-90, ont confirmé l'arrivée du jeu sur l'eShop de la Switch dans le courant de l'été 2018. Il était déjà sorti sur Steam, PS4 et Xbox One en 2016. Il parlait de Rifter, est un jeu très, très, très difficile, avec une histoire assez poignante. J'ai pas forcément envie de vous spoiler, mais en fait, c'est un mec qui était atteint d'une maladie assez violente, qui a créé ce jeu, et il voulait essayer de représenter dans un jeu vidéo son combat contre la maladie. Quant à Undertale, on l'attend toujours, un jour. Pour terminer sur les indés de la Switch, Nintendo a présenté les 10 jeux indés les plus vendus sur l'eShop de la console. Dans le désordre, on retrouve sans surprise SteamWorld Dig 2, Overcooked, Enter the Gungeon, Shovel Knight, mais également Faster MX, Golf Story, Playgrounds, Stardew Valley, on retrouve aussi Celeste qui est sorti pourtant tout récemment, et aussi un jeu beaucoup plus discret qui a su jouer des coudes pour être dans le top 10, un Zelda-like assez court, très sympa, au nom de Kamiko. Concernant encore des nouvelles news de Switch, Sonic Mania Plus arrive cet été sur la console de Nintendo, mais également sur PC, Xbox One et PS4. Cette version complémentaire du jeu Sonic Mania apporte deux nouveaux personnages jouables, un nouveau mode de jeu, mais aussi un mode compétitif à 4 joueurs et d'autres surprises. Ces plus arriveront en DLC pour ceux qui possèdent déjà Sonic Mania. Pour les autres, un jeu complet Sonic Mania Plus arrivera aussi en physique pour environ 30$ avec un artbook de 32 pages. Je garde la main Thierry vu que je vais parler de League of Legends. Et oui, ça faisait un petit moment. Alors là en ce moment, League of Legends, ça explose. Hein. Il y a des patchs de partout, des refontes de partout, un nouveau skin ultra je sais pas quoi de partout. Bref, je vous détaille tout maintenant, genre là dans, allez, on va dire 3 petites secondes. Bon ok, j'ai la flemme d'attendre 3 secondes, donc c'est parti. Nous allons tout d'abord parler de Irelia, parce que oui, Irelia, c'est quand même un personnage assez controversé. Ils ont tenté de la nerf une fois, deux fois, 18 fois, et en fait, ils savent vraiment plus quoi en faire de la pauvre petite Irelia, et avec la méta actuelle, les nouveaux objets, les nouvelles runes, eh bien on n'en voit plus. On n'en voit plus parce que tout simplement, ben, les persos sont devenus tellement skillés que de coup, et tu décèdes. Bon, on va arrêter un petit peu le sel, et on va vous présenter la nouvelle Irelia. Nouvelle compétence passive, ferveur ionienne. Quand elle touche des ennemis avec ses compétences, Irelia cumule des effets ferveur ionienne pendant quelques secondes. Chaque effet cumulé ajoute des dégâts magiques supplémentaires à ses attaques de base, et ses dégâts sont augmentés contre les boucliers. Au maximum d'effets cumulés, Irelia profite également d'un bonus en vitesse d'attaque. Vous allez me dire, oula, qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre? C'est devenu un vrai ninja, ça y est. Là, je pense que la réponse est oui, parce que nous allons continuer avec son A, Rush Fatal. Donc, Irelia fonce sur une cible, infligeant des dégâts physiques, augmentés contre les sbires et les monstres, appliquant ses effets à l'impact et récupérant quelques PV. Bon, ça, on l'avait déjà de base, c'est juste qu'ils l'ont refait un petit peu au goût du jour, avec des nouveaux effets visuels. Si la cible était marquée ou si elle est tuée par Rush Fatal, le délai de récupération de la compétence est annulé. Bon, ça n'a vraiment pas changé, hein. Ça c'est quelque chose que l'on connaissait, c'est juste du visuel comme je l'ai dit. Le Z, Danse du Défi, qui est un peu plus particulier par contre. À la première activation, Irelia commence à charger ses lames. Elle ne peut plus ni bouger, ni attaquer, mais elle profite pendant un court moment d'une réduction significative des dégâts subis. La canalisation ne peut pas être interrompue. À voir tout de même avec les gros contrôles de foule, hein, je reste toujours sceptique quand je vois des trucs avec écrit « la canalisation ne peut pas être interrompue ». Deuxième activation du Z, donc, Irelia frappe avec ses lames, infligeant des dégâts physiques aux ennemis et les ralentissant brièvement. Plus la charge dure longtemps, plus les dégâts sont importants. La range et, on va dire, l'épaisseur du skill ne changent pas, hein, c'est juste les dégâts, soyons clairs. On passe au E, le duo parfait. Irelia envoie une lame à l'endroit visé et elle peut réutiliser duo parfait pour envoyer une deuxième lame à un autre endroit. Les lames volent ensuite l'une vers l'autre, infligeant des dégâts magiques et étourdissant les ennemis touchés en chemin. Duo parfait marque également les champions et les grands monstres pendant quelques instants. Alors, pour la petite explication, parce que bon, là, vous avez juste du textuel, moi j'ai un petit peu plus de visuel que vous pouvez retrouver sur le site de League of Legends, mais bon, ça je vous dis pas. C'est un skill un tout petit peu, mais vraiment, vraiment un tout petit peu, à la Malzahar dans le fonctionnement. C'est-à-dire que ben ça fait pop deux boules de chaque côté qui se croisent, et puis au croisement, ben, vous êtes silence et vous prenez des dégâts. Bon, là, c'est vous qui choisissez les points d'apparition. Je trouve ça beaucoup plus permissif, peut-être beaucoup plus technique. Donc, à voir si ça reste un skill assez sympa à faire. Enfin, on verra. Et enfin, le nouvel ulti, la pointe de l'avant-garde. Alors, c'est très joli, hein, faut dire ce qu'il en est. Irelia déchaîne toute la puissance de ses lames sur une ligne. Si pointe de l'avant-garde touche un champion ennemi, les lames se dispersent aux alentours en forme de feuilles et infligeant des dégâts et marquant aussi les champions ennemis et les grands monstres avant de former un mur de lames qui dure quelques secondes. Ce mur de lames en forme de feuilles, comme je l'ai dit, inflige des dégâts magiques et ralentit significativement les champions ennemis qui le traversent. Le mur de lames les désarme également pendant quelques secondes, ce qui les rend impossibles d'utiliser leurs attaques de base. C'est très fort cette ulti, putain. Donc voilà, nouvelle Irelia, beaucoup plus. Je sais pas, ouais, j'ai envie de dire beaucoup plus animée, beaucoup plus ninja. Le dessin a l'air. Je sais pas, enfin, c'est pas méchant quand je dis ça, mais le dessin a l'air moins mature. On part d'une meuf quand même qui était assez. Avec une assez grande prestance. Bon, faut dire ce qu'il en est, hein. Le nouveau splash art est quand même joli. Il y a une autre prestance, en fait, c'est pas la même chose. Enfin, je ressens moins le. On ressent plus l'effet qu'on dirait un ninja, quoi. Bon, c'est sympa, hein, ce qu'ils font, hein. Les skins sont vraiment jolis. Malgré notre gros cul de glace Irelia, qui, bon, on voit toujours son petit cul assez sympa, mais moins qu'avant. Voilà. Je pense qu'ils ont tout refait pour qu'on essaye d'aimer beaucoup plus le personnage. Bon, à voir s'il la nerfe dès la sortie ou pas, parce que bon, ben, Irelia, ça reste une malédiction quand même, hein, faut le dire. On va passer tout petite info sur le skin de Miss Fortune qui arrive, hein, vraiment. Je sais pas si à l'heure où je parle il est sorti, mais des vidéos sont sorties concernant, ben, donc ce skin qui a apparemment une histoire. Je vous laisse la découvrir. La vidéo est bien animée. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez League of Legends, c'est que chacune de leurs vidéos a un style propre, et puis moi j'aime bien ce qu'ils font au niveau vidéo, hein. Enfin, ça dépend de tout, mais généralement l'animation pour des personnages ou des skins, généralement c'est quelque chose de bien travaillé. Voilà. Alors concernant l'équilibrage maintenant, parce que ben, hein, on va pas trop s'emmerder, c'est des trucs comme ça. Rakan a un buff de son A, de son Z et de son E, ça fait plaisir de revoir le support amoureux de sa belle en bas. Wukong a reçu un buff de son A. Wukong que l'on voit plus parce que ben la méta, tout ça, tout ça. Zed a un buff de son ulti, ce qui est assez, j'ai envie de dire, étonnant, sachant que le personnage est toujours viable. Kayn, son R est buffé lui aussi. Ben, là aussi, je comprends pas trop parce que Kayn est vraiment très fort encore une fois en ce moment. Du nouveau dans les skins avec Puglio. C'est le Galio KFC, on va appeler ça comme ça sera plus sympa. Et Sivir, livreuse de pizza. Bon, ne vous posez pas de questions, allez juste voir ce que ça donne. On a aussi un nouveau skin d'Alistar X-Tech qui est vraiment, enfin, je dirais pas magnifique, mais que je trouve vraiment super beau, quoi. Il est vraiment incroyable. Et évidemment, Miss Fortune qui s'approche ou qui est déjà là. C'est un set de 4 skins pour Miss Fortune. Donc à vous de rester connecté et surtout de regarder les différentes interactions qu'elle peut avoir. C'est joli, joli. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi Shaco, gros up de Shaco sur son A. C'est hallucinant. J'ai sûrement oublié d'autres personnages, genre même Kai'Sa s'est fait up, sachant que ben elle vient de sortir, donc je comprends pas tout. Lee Sin aussi, Lucian, enfin, que des persos qu'on apprécie, qui sont déjà assez forts de base, ben, ils ont été buff, donc voilà, c'est tout. Il y a des changements aussi concernant les objets, mais là, j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails. C'est quelque chose de beaucoup plus technique, et c'est à vous donc de juger si l'item reste viable ou pas du tout. Encore et encore du lourd avec des sorties cette semaine, comme on vous a dit, mais cette fois-ci sur Heroes of the Storm. Et oui, ça faisait longtemps, à peine une semaine, MDR. Bon, j'arrête de me foutre un peu de votre figure pour être poli. Et nous allons tout d'abord commencer par l'équilibrage cette fois-ci. Un équilibrage avec du Gristet, avec un petit nerf, hein. C'est juste pour limiter l'efficacité de Gristet en matière de capture de mercenaires, parce que... c'est un peu trop fort, hein, sans déconner. Il y a un petit équilibrage sur Maiev qui se fait un petit peu nerfer encore une fois, parce que, ben voilà, hein, elle est un petit peu forte, la madame, quand même, faut le dire. Thrall aussi se fait nerf, parce que, ben là aussi, en ce moment, dans les classés, on ne voit que ça, du Thrall et du Thrall. Voilà, ça devient un peu saoulant, et ils ont vite compris que ça méritait un petit nerf. Par contre, concernant Vala et Zul'jin, on a des petits dégâts qui sont augmentés sur des talents ou sur des attaques de base. À vous de vous référer évidemment à la patch note si vous voulez beaucoup plus d'informations. Medivh a été refondu dernièrement, eh bien il se fait équilibrer et ben, je peux vous le dire, hier soir je l'ai joué pendant 2 heures environ. Et je me suis éclaté, voilà, j'ai pas d'autre mot. Le nouveau Medivh est très sympa, beaucoup de dégâts, mais faut être bon avec. Hein. Ça par contre, c'est indéniable, si vous êtes mauvais avec un Medivh, vous n'aurez aucun impact sur votre partie. Genre, aucun. Et choisissez bien les talents, parce qu'il y en a quand même qui se dessinent, qui ont l'air très très bien, hein, voilà. On passe au soutien un tout petit peu avec Auriel, qui a les dégâts de base qui sont augmentés, les temps de recharge qui sont réduits, et les portées qui sont augmentées concernant ses capacités. Après, les talents sont un tout petit peu équilibrés, mais ça fait du bien de voir que elle existe toujours, la petite. Hein, on aime Auriel, on l'aime beaucoup. Malfurion, par contre, se fait encore nerfer, déjà que le personnage est tendancieux, on va dire, parce qu'il est un peu zarbi en ce moment, et ben... Il se refait nerfer, à voir si c'est toujours viable. J'ai bien peur que malheureusement, Lily l'ait dépassé depuis sa refonte depuis un sacré moment. Concernant les tanks, Artanis a ses coûts en mana réduits sur son A et son Z. C'est assez cool pour lui. Sinon, au niveau de ses talents, les vitesses de temps de recharge sont augmentées de 200% à 300% sur le niveau 13, le zèle du Templier. Artanis reste toujours viable, hein. Ce petit équilibrage, je pense pas que ça va changer grand chose. Il était fort avant, il l'est fort maintenant. Petit équilibrage concernant le bunker de Kramer. Le temps de recharge est augmenté et la capacité de sortir du bunker est désormais soumise à un temps de recharge de 1 seconde avant utilisation. Parce que les gens venaient rentrer, ressortaient de suite et ils se sont dit bon, c'est peut-être un peu fort ce qu'on a fait. Sonia, je suis déçu. Elle a été refondue, ils la buff en fait, voilà, c'est un peu chiant, enfin c'est un équilibrage mais en gros c'est un gros buff, et ça me fait chier parce que Sonia je la trouve imbutable depuis le début du jeu, la refonte ça a absolument rien changé, elle est toujours aussi viable, elle est toujours aussi chiante, bon c'est pas trop grave, hein. c'est le jeu ma pauvre Lucette, on peut pas aimer tout le monde. Tyrael, par contre, que l'on voit beaucoup moins, se fait nerfer, hein, c'est gratuit, mais c'est comme ça. Concernant, sinon, le reste de la patch note, 2-3 petits bugs qui sont corrigés, et un petit timer concernant les sapeurs, qui a augmenté de 30 secondes sur les tours du destin. On va passer au plus gros, maintenant, de Heroes of the Storm, avec un nouveau personnage qui s'appelle Phoenix. Alors déjà, je préfère vous le dire, si vous êtes fan de StarCraft 2, vous allez chier sur Phoenix, sur Heroes of the Storm, parce que son design est vraiment immonde. Voilà, c'est dit, hein, il fallait que ça sorte. Phoenix, c'est quand même un perso, on va dire, assez important dans l'histoire. Là, ils lui ont filé sa forme dragon. J'ai envie de dire pourquoi pas, il a 3 formes, ils en ont choisi qu'une. Ok, hein, c'est leur choix, j'aurais préféré le voir évoluer entre les différentes formes qu'il puisse avoir, pour essayer de faire un multiclass comme variant. Bon, le choix artistique de Phoenix Dragon, c'est pas ouf, hein, on dirait juste une araignée méca jaune. Je sais que les dragons de base, c'est pas très beau, mais celui de Phoenix, ils auraient pu faire un effort et prendre les couleurs qu'ils lui ont filées dans le mode coop. Bref, Phoenix est un assassin à distance. Sa première capacité, le plasma cutter, en gros, il fait pivoter un laser autour de sa position en un cercle. Le laser, on va dire, commence là où vous avez votre curseur, et fait deux tours, si j'ai bien compté. Donc c'est une technique assez sympa, mais qui demande à Phoenix d'être assez près de ses ennemis. Son Z, en fait, c'est un peu comme... comment ça s'appelle ? Ben, c'est exactement comme Jinx dans League of Legends. C'est soit vous choisissez du mono-cible avec un taux de vitesse d'attaque assez élevé, soit vous changez et vous balancez des bombes, en fait, littéralement, qui explosent en zone. Et donc, et par contre, le taux de vitesse d'attaque est un peu baissé. Le E de Phoenix est une téléportation à courte distance, mais reste quand même super utile, vu que ben, vous connaissez un peu le truc, hein, la téléportation pour éviter des skills, c'est toujours important. Par contre, celle-ci demande une canalisation, et cette canalisation peut être coupée par un effet de contrôle. Donc à vous de bien attendre de faire chier le petit Phoenix pour ben, le stun quand il faut, et l'atomiser. Concernant son passif, parce que j'en ai pas parlé, Phoenix possède une armure, qui se régénère hors combat. Voilà, tout simplement. C'est une armure assez sympathique qui permet d'encaisser quelques dégâts. Au niveau de ses ultis, alors là, un peu compliqué. Le premier ulti, le petit Phoenix va scanner autour de lui les ennemis qu'il y a et va tirer un barrage de roquettes. Voilà, donc peu importe qu'il y ait une, deux, trois personnes, il tirera les roquettes sur les personnes autour de lui. Donc c'est plutôt pratique en énorme teamfight, et si vous êtes assez près et dans le combat. Deuxième ulti, il fait un énorme rayon laser. Mais genre quand je dis énorme, c'est quand même un énorme rayon laser, vu qu'il prend toute la map, qui peut rester indéfiniment... en train de faire son laser. Par contre, il ne bouge pas, évidemment, et le laser ne peut pas être dirigé. Après, avoir sur les talents, mais ça m'étonnerait, parce que ça serait vraiment, mais alors vraiment abusé. Donc, ce laser ben, fait des dégâts aux gens qui sont dedans, évidemment. Il peut être arrêté par le petit Phoenix quand il en a besoin, mais c'est vraiment une ulti, je pense, pour finir ou pour KS. Enfin, j'ai pas envie de dire pour KS, mais pour essayer de sécuriser les kills. Voilà, c'est plus logique. Donc en gros, Phoenix, bon, ben, mon avis dessus, c'est que ça reste un dégât à distance qui a l'air de pas avoir beaucoup de vie, malgré le fait qu'il ait du bouclier. Mais je pense que c'est normal. Généralement, les héros qui font un taquet de dégâts n'ont pas beaucoup de vie. Mais bon, pour ça, on rappellera que Bourbi... c'est bien fait baiser la tronche, mais lui réapparaît assez vite, donc c'est assez normal. Et par contre, la petite sonde de StarCraft, elle, ben, elle reste faible quoi qu'il arrive. C'est, elle a pas de vie, et puis c'est tout. Voilà. Donc, allô Blizzard, si vous entendez ma prière, faites quelque chose pour Ednos, ou pour Probus, comme vous l'appelez en anglais, parce que là, ce n'est plus possible. Petite info concernant Heroes of the Storm, je sais pas si vous aimez Carbot, qui sont des animateurs... des dessinateurs animateurs qui font beaucoup de vidéos sur l'univers de Blizzard et que ben, Blizzard aime beaucoup au final parce que ben, ça leur fait un peu de visibilité à eux aussi. Des nouvelles icônes Carbot vont arriver sur Heroes of the Storm. J'ai vu toutes les images, j'ai hurlé de rire parce que les dessins sont très comiques. Quand on voit les vidéos, ben, c'est beaucoup plus drôle, évidemment, ça nous parle un peu plus, mais ça va être fun. Je pense que, sans déconner, je trouve ça cool qu'ils mettent un peu de Carbot dans leur jeu. Ils avaient commencé avec StarCraft, vu que Carbot aimait beaucoup StarCraft et qu'ils faisaient des vidéos dessus. Ils sont passés sur Heroes of the Storm, ils ont fait Overwatch, bref, je trouve ça très cool. En parlant d'Overwatch, parce que oui, la transition est plus que bonne, je suis vraiment très fort pour écrire des textes et pour vous les lire comme ça et faire genre, en fait, je suis trop fort, mais c'est pas grave. Concernant Overwatch, Brigitte, hein, évidemment, ça fait toujours mal au cœur et aux oreilles d'entendre ça. Brigitte est disponible, il y a eu un petit équilibrage, à vous de le suivre. Donc oui, Brigitte vient de sortir avec son petit fléau, elle stun les gens, elle est contente, l'équilibrage, bon... Ça reste un équilibrage, même si il y a 2-3 trucs qui changent, mais je vous laisse le lire, sinon on vous tient le crachoir pendant 1h30.
Et on reste dans l'univers de Blizzard avec Hearthstone. Ça, on a l'extension la prochaine là, qui arrive normalement mi-avril, hein, le bois maudit. Mais on a une news qui est tombée, et qui, une news assez surprenante mais compréhensible. C'est le mot-clé « accès de rage » qui va être supprimé de Hearthstone. Alors pourquoi? C'est tout simple. Il n'y a que 9 cartes actuellement qui possèdent cette appellation. Ce n'était pas toujours clair dans l'esprit des joueurs quant à son utilisation. De plus, ces cartes sont relativement peu utilisées et Blizzard ne prévoit pas forcément d'en rajouter d'autres. Par conséquent, le mot-clé accédrage disparaît, mais pas son effet. C'est juste le terme qui est remplacé par une mention générale en fait. Au lieu que le mot-clé soit utilisé, enfin reste comme tel quel, il change juste le texte pour que ce ne soit plus un mot-clé, mais quelque chose de plus général. Ça devient donc si ce serviteur est blessé. Pour prendre un exemple concret, prenons la carte Worgen déchaîné, qui est un serviteur neutre, 3 de mana, 3 d'attaque, 3 de vie. Auparavant, on pouvait lire accéderage, 2 points, furie des vents et plus 1 d'attaque. Désormais, on lira à plus 1 d'attaque et furie des vents s'il est blessé. Ça veut dire que si le serviteur se blesse, peu importe comment, il gagne plus 1 d'attaque et furie des vents. Donc en gros, ça ne change rien dans le fonctionnement de la carte, c'est juste l'appellation qui est modifiée. Voilà. Je vous rappelle également que depuis hier soir, mercredi 22 mars, et jusqu'au lundi 26 mars à 6h du matin, vous pouvez célébrer les 20 ans de StarCraft sur le bras de fer hebdomadaire de Hearthstone, qui a une petite thématique clin d'œil autour du jeu de SF de Blizzard. Bref, en gagnant au moins un bras de fer, vous repartez cette semaine avec 3 paquets de cartes Kobolds and Catacombs. Enfin, pour terminer sur Hearthstone, on apprend que du 26 mars au 9 avril, et à l'occasion de l'arrivée imminente de l'année du corbeau en jeu et donc de la nouvelle extension en bois maudit, vous pourrez obtenir un paquet de cartes par jour, aléatoire, provenant des extensions Unguro, Trône de Glace et Kobolds and Catacombs. Alors, il y a une petite condition, il faut terminer au moins une quête journalière, donc une quête par jour pour gagner au moins un paquet par jour du coup. Voilà, attention cependant, il y a une quête que vous ne pourrez pas réaliser durant cette période, c'est la quête jouer contre un ami, elle sera désactivée, on comprend mieux pourquoi, sinon c'est un peu pété, hein. Mais elle sera réactivée après l'événement. Et on va terminer l'émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Ce mardi 20 mars est sorti Sea of Thieves sur PC et Xbox One, un jeu très attendu, c'est le nouveau jeu de Rare Software en multi dans l'univers de la piraterie où exploration et bataille navale sont au rendez-vous.
À la même date, le DLC de South Park, l'Anal du Destin, une nuit à la Casa Bonita sur PC, PS4 et Xbox One, le jeu donne accès à une nouvelle mission où le héros doit faire équipe avec Lekun et Mysterion pour combattre une créature maléfique issue dans le restaurant préféré de Ezekin.
Toujours ce mardi 20 mars, Assassin's Creed Rogue Remastered, vous avez bien entendu, sur PS4 et Xbox One. Ce jeu d'action-aventure dans un monde ouvert nous amène ici dans l'Amérique du Nord du 18e siècle, mais avec des graphismes revus au goût du jour.
Les Sims 4 au travail sur PS4 et Xbox One, les Sims se lancent dans une nouvelle carrière de médecin, scientifique ou policier notamment. Ils peuvent désormais gérer leur propre entreprise ou galerie d'art. Dans ce DLC, les extraterrestres débarquent même en ville, à vous de les démasquer.
Mercredi 21 mars sur Xbox One, The Count Lucanor incarne Hans dans un monde fantastique et vit une aventure pleine de surprises. Entrez dans un conte immersif où chaque décision est importante.
À choisir entre le Kuta ou les tulipes.
Exactement.
Jeudi 22 mars sur PC et PS4, Ark Park. C'est une expérience en réalité virtuelle basée sur le monde de Ark Survival Evolved. Les joueurs seront au plus près des dinosaures avec leur super casque VR et vont se faire manger par des
Triceratops.
Ouais, des T-Rex et puis plein d'autres parce que je connais pas du tout les dinosaures, ça ne m'intéresse pas.
Allez, toujours le 22 mars, depuis aujourd'hui, hein, Opus Rocket of Whispers sur Switch, voyager au travers d'un monde gelé et enneigé dans les ruines d'une humanité à bout de souffle, avec l'objectif de lancer une fusée vers les étoiles afin de renvoyer les défunts dans l'espace pour respecter une ancienne tradition mortuaire.
Vendredi 23 mars, Ni No Kuni 2, l'avènement d'un nouveau royaume sur PC et PS4, un RPG qui s'installe des centaines d'années après les événements du premier épisode. Deux nouvelles tribus apparaissent, les chats et les souris.
Et enfin, vendredi 23 mars, demain donc, Détective Pikachu sur 3DS, ça fait longtemps qu'il est utilisé ce jeu, avec les bandes annonces très space. Dans la ville de Rime City, les Pokémon et les humains vivent en harmonie. Et Pikachu fait la connaissance d'un garçon nommé Tim, qui est le seul à le comprendre. Donc ensemble, ils vont lutter contre le crime. Pikachu parle, donc hein, mettez-vous ça dans la tête, dans ce jeu, Pikachu parle. Il a une voix très grave, c'est la voix de Ryan Reynolds. C'est très bizarre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Ouais, mais ça m'emmerde le fait qu'ils disent « Oui, il n'y a que Tim qui peut le comprendre. » Ben, soit vous assumez le fait qu'il parle et donc vous faites de votre jeu une énorme bouse, soit vous assumez pas et dans ce cas-là, ben, c'est pas du tout assumé, ça se sent et c'est nul. Merci.
Voilà pour cette semaine qui était très riche en annonces et en émotions. On se retrouve donc dans d'autres programmes d'Ivason Studio. Prochainement dans des streams, on va les reprendre et bien sûr la semaine prochaine dans l'émission Jeux vidéo.
Allez, au revoir tout le monde.
Réécoutez ce programme en podcast sur notre site ivasoundstudio.com.